Tu l'as, notre invité?
Yes.
Ouais, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, comment ça va?
Très bien, vous autres.
Ouais, ça va bien, mais là, je regarde ce matin, Mme Fréchette dépense comme s'il n'y avait aucun lendemain. C'est inquiétant, là. Même le ministre des Finances l'a rappelé à l'ordre il y a quelques semaines. On dit il y a 20 jours à peu près. A rien compris, a pas eu le mémo, a continué. On dit qu'on serait rendu à 336 millions de dépenses actuellement.
Ben déjà qu'on aille un ministre à la CAQ ou un premier ministre de la CAQ qui dépense plus que ce qui était prévu, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les 8 dernières
Non,
années.
non.
Mais faut se dire, dans le dernier budget d'Éric Girard, c'est ça, il avait réservé une somme d'environ 250 millions de dollars pour des dépenses ponctuelles qui seraient annoncées cette année. Je pense que c'est pour une enveloppe d'environ 1,5 milliard sur 5 ans. Mais bon, ça, c'est comment dire, en espérant que la CAQ sera encore là dans 5 ans. Il n'en reste que, ben, autant que 250 millions, c'est quand même beaucoup d'argent, on va se dire franchement, le gouvernement québécois présentement dépense à peu près un demi-milliard par jour pour toutes sortes de dépenses, que ce soit la rémunération, les infrastructures ou autre. Ceci étant dit, que Mme Fréchette ne respecte pas cette règle-là, je ne suis pas surpris. Moi, ce qui me déçoit, par contre, c'est que le ménage pour réduire les dépenses de l'autre côté ne se
Exact,
fasse pas.
exact.
Parce que la réalité, c'est qu'on a de la marge là, pour couper et puis effectivement donner un peu plus d'air frais aux contribuables. Je pense qu'il y a quand même des mesures qui ont été mises de l'avant qui méritent d'être saluées, comme par exemple le remboursement de la taxe de bienvenue. Là, on est rendu à parler d'une baisse de l'imposition de la TVQ sur certains produits d'épicerie. On rembourse la taxe carbone aux agriculteurs. Donc, comme il y a vraiment, comment dire, un éveil chez Mme Fréchette et certains éléments de la CAQ qui réalisent que peut-être que oui, la meilleure manière de donner de l'air, d'alléger la pression sur le portefeuille des Québécois, ben, c'est en s'attaquant aux taxes puis à d'autres mécanismes de ce genre-là. Ceci étant dit, il faut qu'elle fasse le travail des deux côtés. Donc oui, nous laisser un peu plus de marge de manœuvre dans notre portefeuille, mais de l'autre côté, il faut qu'elle réduise les dépenses de l'État. Puis ça, ben, on verra pas ça cette année. Et pourquoi? Ben, on est quand même en année électorale.
Ouais, c'est
Un
ça.
gouvernement s'engage jamais à faire le ménage des dépenses en pleine année électorale, là.
Ouais, c'est tout est beau, hein? Tout est fun. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu la payes. On parle d'un déficit de quoi? 8 milliards? 9 milliards? Éric Girard dit, oh, les rentrées d'argent sont meilleures. Mais oui, mais c'est parce qu'on s'en va sur un déficit pareil, là.
Oui, ben, on était à, je pense, 8,6 milliards de dollars en déficit cette année. Il n'y aura pas de retour à l'équilibre budgétaire avant la fin de la décennie. Puis ça, c'est si la tendance se maintient, qu'il n'y a pas de soubresaut économique, qu'il n'y a pas de nouvelles annonces qui viennent bouleverser les cartes. Donc, oui, effectivement, on est quand même sur une corde de raide. Ceci étant dit, je pense qu'Éric Girard est quand même en bonne partie responsable de ça. Je veux dire, il a quand même été le ministre des
Ben
Finances
oui.
qui nous a donné les plus importants déficits de l'histoire du Québec, qui a lui-même, comment dire, c'est sous sa gouverne, qui a commis la première décote du Québec en pas loin de 33 ans. Donc, quand même, je veux dire, s'il y a moins de marge de manœuvre aujourd'hui, c'est à cause des mauvaises décisions qui ont été prises hier. Mais maintenant que c'est dit, je pense que c'est pas une raison pour ne pas donner un peu d'air aux contribuables de justement s'attaquer aux différentes taxes et impôts. Puis j'espère que Mme Fréchette va en faire beaucoup plus, mais il va falloir qu'elle ait un plan crédible pour balancer ou plutôt équilibrer les dépenses de l'autre côté, là.
Oui, puis quand tu regardes les dépenses du gouvernement, bien là, tu dis il y a peut-être bien des places à couper, évidemment. Mme Fréchette aussi reçoit un courriel. En fait, c'est le courriel qui a été coulé aux médias. C'est quand même ça aussi particulier, hein, de que le ministre des Finances ou le ministère des Finances coule l'information aux médias en disant on leur avait dit de faire attention, de ne pas dépasser l'enveloppe de 250 millions. Elle est rendue à 336 millions, puis il reste encore quoi, 4 mois, 5 mois avant les élections, là?
Exactement. Fait qu'on a hâte de voir comment ça va se traduire à la mise à jour économique qui va être présentée au Québec cet automne également. Là, on va finalement voir si ces fameuses nouvelles annonces-là ont plutôt poussé le déficit davantage dans le rouge ou si finalement on aura des meilleures nouvelles d'un point de vue des revenus. Dans tous les cas, ça donne l'impression qu'il y a une lutte intestine au sein de la CAQ. Là. Quand c'est rendu qu'il y a des qu'au bureau du ministre des Finances, on commence à couler de l'information dans les médias, ça va pas bien parce que le ministre des Finances, essentiellement, il est supposé être un peu comme le président du Conseil du Trésor, vraiment le bras droit du premier ministre. Puis là, dans ce cas-ci, on sent que vraiment on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Fait que je me dis, bon, si jamais la CAQ arrive à sauver les meubles, puis même peut-être à sauver son gouvernement, j'ai pas l'impression qu'Éric Girard va rester dans son poste de ministre des Finances dans le prochain gouvernement de la CAQ, avoir ce genre de lutte-là interne. Mais en même temps, ça démontre que justement, il y a vraiment deux écoles au sein de la CAQ qui semblent se former. D'une part, part, on veut continuer dans la même tendance que ce qui s'est inscrit sous François Legault, puis on se limite à ça. De notre part, il y a vraiment, comme je le disais tantôt, un réveil qui s'est vu durant la course à la chefferie entre Fréchette et Drainville, où est-ce que là, on parle de oui, OK, c'est bien de couper dans la fonction publique, oui, il faut qu'on s'attaque aux taxes, aux impôts, à la bureaucratie, aux dépenses, etc. Sauf que, ben, quand on a ces deux groupes-là qui s'affrontent, au final, on n'obtient pas nécessairement les résultats qu'on espérait. Puis là, on est rendu avec des genres de coulage d'informations publiques, là.
Oui, puis Éric Jarre dit, je l'ai fait ça une centaine de fois. Oui, mais ça n'a pas coulé là, publiquement. Là, ça coule publiquement. C'est parce qu'il se passe de quoi, là? Elle dépense trop. L'autre chose qu'on apprend, c'est que les taxes municipales ont bondi de 19,9 % en 3 ans. C'est Michel Girard qui nous apprenait ça en fin de semaine. Soit le double de l'inflation. Là, tu dis, les municipalités qui disent qu'ils n'ont pas une scène, pourtant, ils ne le disent pas, mais ils ramassent beaucoup d'argent avec les taxes municipales.
Oui, ils n'en ont jamais autant ramassé. Là, en 2025, les municipalités ont été chargées quand même 18,1 milliards de dollars dans les poches des Québécois. Je veux dire, c'est quand même énorme. Puis ça, on ne parle pas des autres taxes et impôts qu'on paye pour le gouvernement provincial et fédéral. Vraiment, juste pour le municipal, 18 milliards, c'est énorme. C'est comme vous le disiez, là, c'est 19,9 % d'augmentation ou pas loin de 3 milliards en 3 ans. Puis ça fait vraiment un pied de nez au fameux, comment dire, au rapport qui a été déposé par Jérôme Forget-Marceau, il y a à peu près une semaine ou deux, où est-ce qu'il disait que non, les municipalités sont dans le trou, ils n'ont pas le choix, il va falloir qu'ils augmentent les taxes, même davantage, à un niveau plus élevé que l'inflation, que les municipalités n'ont pas fait assez attention, n'ont pas assez augmenté assez, ils ont pas, pardon, pas assez augmenté les comptes de taxes au cours des dernières années, et ils ont laissé traîner, à cause de ça, des déficits majeurs là, au niveau de la maintenance de leurs infrastructures. Je suis d'accord quand même sur le fond. C'est vrai que les infrastructures au Québec, surtout au niveau municipal, sont dans une très mauvaise, très, très mauvais état.
Oui, mais c'est de
On
l'argent
parle
qu'ils
d'un déficit
dépensent. Au lieu de mettre l'argent sur ces infrastructures, ils vont la mettre sur des nouveaux projets à chaque fois. Puis après ça, ça demande pourquoi ils n'ont pas d'argent. Pourtant, l'argent rentre à pleine porte, là.
Ben exact. Puis ça, c'est même souligné dans le rapport, là. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on priorise davantage les infrastructures existantes au lieu des nouvelles infrastructures. Là, ça veut dire, ben ça, c'est malheureusement, c'est pas mis de l'avant. Ça aurait dû être clairement
Ah
indiqué.
oui.
Ça veut dire Ville de Québec, Ville de Montréal, lâchez votre tramway, lâchez votre REM, lâchez vos autres stations de métro, vos autres pistes cyclables. Commencez par prendre soin de ce qui est déjà présent, de ce que vous êtes, ce sur quoi vous êtes en retard dans l'entretien de vos infrastructures. Parce qu'on a un déficit présentement de 52 milliards de dollars pour l'ensemble des infrastructures municipales au Québec. Et ce déficit-là va passer à pas loin de 94 milliards d'ici 2036. Donc,
Incroyable.
ça va juste aller en s'empirant. Fait que si les municipalités continuent à ajouter des infrastructures supplémentaires, ben c'est un déficit qui va juste complètement exploser par la suite. Et ça, c'est quand même sans oublier que ben, tout ça ne peut être pris en charge qu'avec les revenus de la ville. Mais au lieu de ça, ben, on priorise les nouvelles infrastructures, on engage plus de fonctionnaires sans même améliorer la qualité ou l'accessibilité des services municipaux. Puis après ça, on se dit, ben là, on manque d'argent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit presser le citron à répétition qu'il contribue à, puis espérer qu'il y a plus de jus qui en sorte. La réalité, c'est que les gens sont déjà pris à la gorge en ce moment. Donc, de dire qu'on va augmenter les taxes municipales à un niveau supérieur à l'inflation en disant que les villes n'ont pas fait leur travail alors qu'elles ont fait leur travail. Je veux dire, quand on regarde l'augmentation du compte de taxes à Québec, au Saguenay, à Montréal, plus souvent qu'autrement, il suit l'inflation, puis plus souvent qu'autrement qu'on regarde les dépenses municipales, ça dépasse l'inflation. Mais ça, on n'en parle pas trop dans le rapport,
Ah, mais il
puis
nous
ben, je
donne
suis content
toujours
de
la
voir que Michel
moyenne.
Girard.
C'est ça, c'est ce qui nous donne toujours la moyenne des hausses de taxes. Mais il y a des contribuables, la maison qui valait 200 000 est rendue à 400 000, mais le taux de taxation est à 3,5 pareil, là. Donc lui, son compte de taxes explose de plus que la moyenne qu'il nous donne.
Exact. Ça, c'est une affaire qui n'est pas assez mentionnée. Les municipalités au cours des 10 dernières, les municipalités, les propriétés au cours des 10 dernières années ont plus que doublé là, en termes de valeur. Donc oui, ça présente beaucoup plus de revenus pour les villes. Même que dans le cas de Québec, par exemple, on a ajouté un palier supplémentaire pour la taxe de bienvenue pour
Oui.
s'assurer d'aller chercher encore plus d'argent sur les propriétés qui valent plus que 500 000. Donc comme quoi, on a vraiment été chercher au maximum là-dessus. Et malheureusement, on n'arrête pas d'augmenter la taxe de la dette des différentes municipalités malgré tout. Là, si je ne me trompe pas, à Québec, on est à peu près 1,1, 1,2 milliards là, en dette. Peut-être que je me
1,5,
trompe complètement.
1,5, 1,5 milliards,
1,5.
1,5 milliards.
1,5. C'est quand même élevé. À Montréal, on est à 7,4 ou 7,6 milliards. C'est quand même énorme également. Ça veut dire qu'on paye pas loin d'1,3 milliard par année juste pour les intérêts sur la dette. Ça, c'est jamais mentionné non plus. Et à la place, bon, on dit ben, il faut qu'on aille chercher des revenus supplémentaires au lieu d'essayer de contrôler les
Oui,
dépenses.
puis la semaine dernière, on a appris que la Ville de Québec avait fait un surplus de 78 millions en un an. Ça, c'est des revenus de taxes qui nous disent pas qu'ils reçoivent pareil, là. Les taxes de bienvenue et autres. sous-estimation des taxes de bienvenue. Hey, 78 millions à un an de surplus. C'est du cash pareil. Puis après, ça, ils nous disent on va encore monter les taxes municipales.
Hey, ben c'est ça. D'un, si tu as des surplus, c'est la preuve que tu vas en chercher suffisamment dans les poches
Ben,
du monde.
je sais
Maintenant,
pas.
qu'est-ce que tu fais avec ces surplus-là? Je pense que ça serait sage soit de les redonner à la population, comme tu sais, un genre de surplus. Mais là, dans ce cas-ci, comme je veux dire, on a quand même une dette à Québec, puis cette dette-là coûte quand même des centaines de millions en intérêts à chaque année. Donc, il va falloir quand même l'éliminer pour être en mesure d'aller avoir une marge de manœuvre à long terme dans le budget de la ville. Fait que je pense que ces surplus-là devraient d'abord servir à rembourser la dette le plus rapidement que possible. Puis éventuellement, quand on n'aura plus de dette, ben les surplus doivent être carrément remis dans les poches des contribuables. Mais dans la tendance actuelle, peu importe la ville, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de municipalités de plus de 25 000 habitants présentement au Québec, où est-ce qu'il y a vraiment un plan concret pour à la fois rembourser la dette, puis ensuite remettre de l'argent dans les poches du monde, plutôt que de suivre les recommandations du fameux rapport de l'UMQ de Forget-Marceau. Mais il n'en reste que ça serait la piste la plus intéressante pour les contribuables à suivre.
Il veut rembourser à Québec, la ville de Québec, et ils veulent rembourser seulement 2%. Sa dette. 78 millions, là, ils vont prendre 2% de 78 millions, ils vont mettre ça sa dette. Alors que moi, je ferais moitié dette, moitié infrastructure dans un fonds, là.
Oui, ben, puis tant aussi longtemps qu'on applique un meilleur contrôle sur les nouvelles infrastructures, je pense qu'à Québec, le plus gros problème, c'est que là, la ville s'en va carrément dans un trou sans fond avec son histoire de tramway.
Ah, non, ça va être l'enfer.
Donc, quand même, bien qu'on aurait des surplus si l'argent se finit par être dilapidé dans un projet qui, on ne sait même pas s'il va voir le jour éventuellement parce qu'on attend le fédéral. On ne sait pas où est-ce que le provincial est situé là-dedans, mais le projet s'en va quand même de l'avant. Fait qu'il va y avoir des coûts et des coûts supplémentaires avec l'argent qu'on n'a pas. Il faut le rappeler.
Exactement. Bon, streaming. Là, Ottawa veut faire payer Netflix, Prime, Amazon et autres, là, tous les services de streaming, Disney+, Illico, entre autres, et autres, là, parce qu'on dit qu'on veut financer un programme là, de dépenses, de fonds pour la programmation. On veut produire des émissions. On veut faire payer les abonnés de Netflix pour la programmation locale.
Exact. Puis là, ça, c'est une annonce du CRTC qui est arrivée, je pense, la semaine dernière. Ça en a pris plusieurs au dépourvu. Parce qu'on se souvient que l'année dernière, juste avant, même pas juste avant, dans le cadre des négociations avec les Américains, Mark Carney avait enterré la fameuse taxe sur les services numériques,
oui,
qui devait être la fameuse TSN, donc d'à peu près 3% sur les revenus, pas juste des compagnies de streaming, mais en l'ensemble des plateformes, des réseaux sociaux, etc. Mais ça avait été abandonné. Par contre, là, on a une taxe sur le streaming qui remonte là, à 2024. Ça avait été mis en place initialement sous le gouvernement de Justin Trudeau. Cette taxe-là, c'est environ 5% des revenus canadiens de toutes les plateformes de streaming qui font plus de 25 millions de dollars en chiffre d'affaires au Canada, bien sûr. Donc ça inclut les Netflix, Disney+, Amazon, etc. Mais la réalité, c'est que là, bon, on passe de 5 à 15%. Donc inévitablement, ça veut dire que ça va leur coûter beaucoup plus cher. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui va la payer réellement cette facture-là? Bien, vous l'aurez deviné, c'est une question de temps avant que vous receviez un avis de Netflix qui vous dit que votre facture, votre abonnement mensuel va coûter plus cher dorénavant. Comme par magie, parce qu'effectivement, cette fameuse taxe-là est refilée constamment aux consommateurs. C'est une taxe qui est attachée à la fameuse loi C-11 et qu'elle est toujours en vigueur. Puis là, au nom de vouloir financer les médias, financer les arts, financer la culture, ben on veut aller chercher davantage d'argent dans les poches du monde, essentiellement, parce que c'est pas ces compagnies-là qui vont les payer ultimement. Par contre, ce qu'il faut mentionner, c'est que ça rend l'environnement réglementaire et fiscal beaucoup moins intéressant pour les compagnies de streaming. On a même un certain Michael Gaist de l'Université d'Ottawa, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'Internet et du commerce électronique. Puis de son côté, il dit carrément le Canada va donner la place dans le monde où ça coûte le plus cher pour les plateformes de streaming pour se produire. Là, ça ne peut dire qu'une chose. D'un, ils vont produire de moins en moins et diffuser de moins en moins au Canada, à moins, bien sûr, de refiler une facture de plus en plus coûteuses aux familles, bien, à l'ensemble des utilisateurs. Et d'autre côté, bien, on peut s'attendre à un exode, à ce qu'éventuellement ces compagnies-là arrêtent de diffuser au Canada parce qu'ils disent que ça coûte beaucoup trop cher opérer ici. On se fait taxer d'un bord puis de l'autre, puis là, le gouvernement veut essayer de nous en passer une par la suite avec C22. Donc, non, nous, on ne prendra pas de chance, on va juste s'en aller. On n'est jamais gagnant en tant que consommateur.
Le CRTC devrait s'occuper au prix des forfaits cellulaires aussi parce que ça nous coûte très cher au Canada pour un téléphone cellulaire. On se compare avec les États-Unis, par exemple.
Absolument. Mais en même temps, je pense que le CRTC est en bonne partie responsable de ça, de la même manière. Parce que Parce qu'il nuit essentiellement à l'ensemble de la compétitivité,
Il y
ben à
a
l'ensemble
quatre
de la
joueurs.
concurrence au Canada.
Il y a quatre
Ben
joueurs.
c'est ça. Puis CRTC, il maintient les règles qui font en sorte que ces quatre joueurs-là se restent en place
Ben
puis ne sont
oui.
pas ébranlés par une quelconque compétition étrangère,
Et
qu'elle soit
loyaliste.
américaine, européenne ou locale. Donc, le CRTC est pas mal la raison principale de ces problématiques-là. Bien sûr, il y en a d'autres, mais là, dans ce cas-ci, je pense que d'augmenter la taxe sur les services de streaming, on va améliorer absolument aucun service. On va pas non plus sauver la culture. On va plutôt, d'un, refiler une facture plus importante à tout le monde. Toute personne qui a un compte Netflix, Disney+, Paramount, nommez-le, ça va coûter plus cher. Puis finalement, ben, cet argent-là va sûrement être dilapidé d'une quelconque manière parce qu'on va se rappeler, franchement, on parle d'un gouvernement qui a un déficit de 65 milliards de dollars présentement, qui aille chercher plus d'argent dans les poches des compagnies de streaming. Ça va pas changer grand-chose à l'état des finances publiques. Ça va nous appauvrir, puis ça risque de les faire fuir. Bref, c'est une très mauvaise approche de la part du CRTC.
Mais je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'elles s'en aillent, ces entreprises-là. Ils veulent que le Big Four, là, le Big Four des cellulaires, eux autres, ils ont toutes leurs plateformes, là. Québécois a Illico, Bell, c'est quoi? C'est Crave. Après ça, tu as Rogers qui est aussi une plateforme. On veut Pitelus. On va dire, ben là, allez-y. Restez entre vous autres, entre nous autres. Là, on va s'auto-produire. Puis les autres qui ne veulent pas collaborer, allez-vous-en. De toute façon, la facture va être affiliée de toute façon contribuable. Là.
Exactement. Puis là, malheureusement, on ne sait pas exactement combien ça va coûter, mais on le savait déjà avec la taxe sur les services numériques qui avait été abolie l'an dernier, selon l'expérience ou du moins les observations qu'on pouvait faire sur l'Union européenne, que cette taxe-là est inévitablement refilée aux consommateurs. Comme je vous dis, attendez-vous à voir peut-être le coût de votre facture
Ouais,
augmenter de quand
ouais.
même quelques dollars par mois uniquement parce que CRTC a pris cette décision complètement arbitraire. Tu sais, d'une part, quand Mark Carney veut négocier avec les Américains, il est rapide pour éliminer une taxe. Mais quand c'est le CRTC qui vient piger davantage dans les poches des contribuables, pour l'instant, il est assez muet, là. Donc, on va espérer qu'il se réveille parce que là, en plus, à l'approche des négociations avec la CIM qui devrait commencer d'ici quelques semaines, je pense que c'est le 1er juillet, on n'est pas en train de préparer la table pour des négociations intéressantes, là. Donc, je pense que de relâcher sur cette pression-là, parce qu'on va se dire la très grande majorité de ces entreprises-là sont étrangères, sont américaines, ça part pas du tout les négociations du bon pied, là.
Ah, ben ça va être à suivre. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. C'est la prime de venir au Canada, faut que tu payes. Faut que tu
payes.
Faut que tu payes. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.
C'est un plaisir. À bientôt.
Salut. Voilà. C'est ça.
Tu vas payer, Pierre. OK? Paye.
Mais regarde, dans tous les secteurs clés, c'est comme ça. Tu as des joueurs qui ont une part de gâteau réservée.
Ouais.
Les avions, c'est la même affaire. Les compagnies aériennes viennent pas ici. Pourquoi? Parce que les coûts d'entrain, les intrants sont trop élevés. Cellulaire, même affaire. Le cas, là, ce qu'on veut, c'est éliminer le streamer. Là. On va éliminer des plateformes. Allez-vous-en.
On va être le fun, hein? On va rester dans notre petit dôme, nous autres, puis regarder nos petits programmes. Pis...
Des monopoles.
OK.
Voilà. Hey, après la pause, on jase avec un médecin. Il y a plein d'affaires à jaser avec un médecin ces temps-ci. On revient.
Coup sûr dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X.